Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs des Impromptus, dans le cadre de nos lectures de correspondance du XXe siècle, nous avons choisi pour vous des lettres d'Irène Némirovski et de ses proches, correspondance échangée durant la période de septembre 1939 au mois de décembre 1945. Ces documents ont été placés en annexe après le roman « Suite française » qui obtint en 2004 le prix Renaudot. Irène Némirovski est née à Kiev en 1903. Russe d'origine juive, elle est encore adolescente lorsque ses parents doivent fuir la révolution bolchevique. Après quelques mois d'errance, la famille Némirovski s'installe en France en 1919 à Paris. Irène Némirovski devient une romancière prolifique et réputée. Elle publie notamment « David Golder » en 1929, roman qui sera salué par la critique et dont sera tiré un film. La même année, elle épouse Michel Epstein, lui aussi émigré russe. Ils auront deux filles, Denise et Elisabeth. Mais en dépit de sa notoriété et de son amour de la France, Irène Némirovski n'obtiendra pas la nationalité française et sa conversion au catholicisme ne lui sera d'aucun recours contre la montée de l'antisémitisme. En 1940, la romancière et son mari tombent sous le coup des lois promulguées à l'encontre des ressortissants étrangers de race juive. Le 13 juillet 1942, Irène Némirovski est arrêtée, puis déportée à Auschwitz. Michel Epstein sera déporté à son tour quelques mois plus tard. Aucun des deux ne reviendra d'Auschwitz. Seules les deux fillettes, Denise et Elisabeth, furent sauvées. Ces courriers échangés montrent l'amitié qui unissait Irène Némirovski avec Michel Esménard, directeur des éditions Albin Michel, Albin Michel lui-même et André Sabatier, directeur littéraire. Ces lettres témoignent aussi de l'impuissance cruelle qui frappe ses correspondants.
Lettre du 28 septembre 1939, Robert Esménard à Irène Némirovski. Nous vivons en ce moment des heures angoissantes qui peuvent devenir tragiques du jour au lendemain. Or, vous êtes russe et israélite. Et il pourrait se faire que ceux qui vous ne connaissent pas, mais qui doivent être rares toutefois, étant donné votre renom d'écrivain, vous créent des ennuis. Aussi, comme il faut tout prévoir, j'ai pensé que mon témoignage d'éditeur pourrait vous être utile. Je suis donc prêt à attester que vous êtes une femme de lettres de grand talent, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le succès de vos œuvres tant en France qu'à l'étranger, où il existe des traductions de certains de vos ouvrages. Je suis aussi tout disposé à déclarer que depuis octobre 1933, époque à laquelle vous êtes venu chez moi, après avoir publié chez mon confrère Grasset quelques livres dont l'un, David Godler, fut une éclatante révélation et donna lieu à un film remarquable, j'ai toujours entretenu avec vous et avec votre mari les relations les plus cordiales, en plus de nos rapports d'éditeurs.
21 décembre 1939. Carte de circulation temporaire du 24 mai au 23 août 1940 pour Irène Nemirovski. Nationalité russe, autorisée à se rendre à Issy-l'Évêque, mode de locomotion autorisé, chemin de fer, motif, voir ses enfants évacués.
9 août 1940. Irène Nemirovski à Mademoiselle Le Fur. J'espère que vous avez bien reçu ma lettre vous accusant réception des 9000 francs. Voici pour quelle raison je m'adresse à vous aujourd'hui. Imaginez-vous que dans un petit journal de la région, j'ai lu l'entrefilet que je vous communique. En vertu d'une décision récente, aucun étranger ne pourra collaborer au nouveau journal. Je voudrais bien avoir des précisions au sujet de cette mesure, et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'en fournir. Croyez-vous que cela concerne une étrangère qui habite comme moi en France depuis 1920? S'agit-il d'écrivains politiques ou également d'écrivains d'imagination? En général, vous savez que je me trouve tout à fait isolée du monde et que j'ignore tout des mesures qui auraient été adoptées ces temps derniers dans la presse. Si vous jugez que quelque chose pourrait m'intéresser, soyez assez gentille pour me le faire savoir. Ce n'est pas tout. Je vais encore vous mettre à contribution. Me souvenant combien vous êtes aimable et complaisante. Je voudrais savoir quels sont les écrivains qui sont à Paris et dont on voit la signature dans les journaux qui paraissent. Pourriez-vous savoir si Gringoire et Candide, ainsi que les grandes revues, envisagent de rentrer à Paris? Et les maisons d'édition? Lesquelles sont ouvertes?
10 mai 1941. Irène Nemirovski à Robert Esménard. Cher monsieur, vous vous souvenez que, d'après nos accords, je devais toucher 24 000 francs le 30 juin. Je n'ai pas besoin de cet argent actuellement, mais je vous avoue que les dernières ordonnances concernant les Juifs me font craindre que des difficultés ne surgissent lors de ce paiement jusqu'auquel il reste encore 6 semaines, et cela serait pour moi un désastre. J'ai donc recours à votre obligeance pour vous demander d'avancer ce paiement en versant dès maintenant cette somme en un chèque à mon beau-frère Paul Epstein, à son ordre. Je lui demande d'ailleurs de vous téléphoner pour s'entendre avec vous là-dessus. Bien entendu, un reçu signé par lui vous donnera pleine et entière décharge de ma part. Je suis désolée de vous ennuyer à nouveau, mais je suis sûre que vous comprendrez les raisons de mon inquiétude. J'espère que vous avez toujours d'excellentes nouvelles d'Albin Michel.
17 mai 1941. Irène Nemirovski à Robert Esménard. Cher monsieur Esménard, mon beau-frère m'a fait savoir que vous lui aviez remis les 24 000 francs que vous deviez me verser le 30 juin. Je vous remercie beaucoup de votre extrême gentillesse à mon égard.
14 octobre 1941. Irène Nemirovski à André Sabatier. Cher ami, je suis très touchée de votre gentille lettre. Ne croyez surtout pas que je méconnaisse votre amitié ni celle de monsieur Esménard. D'autre part, je sais parfaitement quelles sont les difficultés de la situation. J'ai montré jusqu'ici autant de patience et de courage qu'il m'a été possible d'en fournir. Mais que voulez-vous, il y a des moments très durs. Les faits sont là. Impossibilité de travailler et nécessité d'assurer l'existence de 4 personnes. À cela s'ajoutent des vexations stupides. Je ne peux pas aller à Paris. Je ne peux pas faire venir ici les choses les plus indispensables à la vie, telles que couvertures, lits pour les enfants, etc., ni mes livres. Une interdiction générale et absolue a été formulée au sujet de tous les appartements habités par mes pareils. Je ne vous raconte pas cela pour vous apitoyer, mais pour vous expliquer que mes pensées ne peuvent être que noires.
27 octobre 1941. Robert Esménard à Irène Nemirovski. J'ai exposé votre situation à mon beau-frère et lui ai d'ailleurs remis les dernières lettres que vous m'avez adressées. Comme je vous l'ai dit, M.A. Michel ne demande qu'à vous être agréable dans toute la mesure du possible et m'a prié de vous offrir pour l'année 1942 des mensualités de 3000 francs correspondant en somme à celles qu'il vous versait alors qu'il avait la possibilité de publier vos ouvrages et d'en obtenir une vente régulière. Vous seriez très aimable de me confirmer votre accord. Toutefois, je dois vous signaler que conformément aux indications très précises que nous avons reçues du syndicat des éditeurs au sujet de l'interprétation des dispositions résultant de l'ordonnance allemande du 26 avril, article 5, nous nous trouvons dans l'obligation d'affecter à leur compte bloqué tout paiement revenant à des auteurs israélites. Partant de ce principe, il est dit que les éditeurs doivent payer les droits d'auteur aux auteurs israélites en les adressant à leur compte dans une banque après avoir eu de cette banque l'assurance que ce compte est bloqué. D'autre part, je vous retourne la lettre que vous avez reçue des films JB après en avoir conservé une copie. Des renseignements que j'ai obtenus de sources qualifiées, il résulte qu'une affaire de ce genre ne peut être réalisée que lorsque l'auteur d'un roman susceptible d'être adapté à l'écran est d'origine aryenne, aussi bien dans cette zone-ci que dans l'autre. Je ne puis donc traiter une telle affaire que quand l'auteur de l'ouvrage apporté à l'écran me donne les garanties les plus formelles à ce sujet.
13 juillet 1942. Télégramme, Michel Epstein à Robert Esménard et André Sabatier. Irène partie aujourd'hui, subitement, destination Pithiviers, Loiret. Espère que vous pourrez intervenir urgence. Essaie vainement téléphoner, Michel Epstein. Juillet 1942. Télégramme, Robert Esménard, André Sabatier à Michel Epstein. Venons d'avoir votre télégramme. Démarche commune faite aussitôt par Morand, Grasset, Albin Michel. À vous.
Deux dernières lettres d'Irène Nemirovski. Toulon, le 13 juillet 1942. 5 heures, rédigée au crayon et non oblitérée. Mon cher amour, pour l'instant je suis à la gendarmerie où j'ai mangé les cassis et les groseilles en attendant qu'on vienne me prendre. Surtout, sois calme. J'ai la conviction que ce ne sera pas bien long. J'ai pensé qu'on pourrait aussi s'adresser à Caillot et à l'abbé Dimet. Qu'en penses-tu? Je couvre de baisers mes filles bien-aimées. Que ma Denise soit raisonnable et sage. Je te serre sur mon cœur ainsi que Babette. Que le bon Dieu vous protège. Pour moi, je me sens calme et forte. Si vous pouvez m'envoyer quelque chose, je crois que la deuxième paire de lunettes est restée dans l'autre valise, dans le portefeuille. Livre, s'il vous plaît, si possible, également un peu de beurre salé. Au revoir, mon amour. Jeudi matin, juillet 42, Pithiviers, rédigé au crayon et non oblitéré. Mon cher aimé, mes petites adorées, je crois que nous partons aujourd'hui. Courage et espoir. Vous êtes dans mon cœur, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide tous.
Juillet 1942, Michel Epstein à André Sabatier. J'ai essayé en vain de vous joindre hier par téléphone. Je vous ai télégraphié ainsi qu'à Monsieur Esménard. La gendarmerie a emmené hier ma femme. Destination, paraît-il, le camp de concentration de Pithiviers, Loiret. Raison, mesure générale contre les juifs apatrides de 16 à 45 ans. Ma femme est catholique et nos enfants sont français. Peut-on quelque chose pour elle ? Réponse d'André Sabatier. En tout état de cause, plusieurs jours seront indispensables. Votre Sabatier.
15 juillet 1942. André Sabatier à J. Benoît Méchain, secrétaire d'État à la vice-présidence du Conseil. Notre auteur et notre ami, Irène Nemirovski, vient d'être dirigée d'ici l'évêque où elle habitait sur Pithiviers. Son mari vient de m'en informer. russe blanche, israélite, comme tu le sais, n'ayant jamais eu d'activité politique, romancière de très grand talent, ayant toujours fait le plus grand honneur à son pays d'adoption, mère de deux petites filles de 5 et 10 ans, je te supplie de faire tout ce que tu pourras. Merci d'avance et bien fidèlement à toi.
16 juillet 1942, télégramme de Michel Epstein à Robert S. Ménard et André Sabatier. Ma femme doit être arrivée à Pithiviers. Croit utile intervenir auprès préfet régional Dijon, sous-préfet Autun et autorité. Pithiviers, Michel Epstein.
Samedi 24 juillet 1942. André Sabatier à Michel Epstein. Si je ne vous ai pas écrit, c'est que je n'ai rien pour l'instant de précis à vous faire connaître et que je suis incapable de vous dire autre chose que ce qui pourrait être de nature à atténuer votre angoisse. Tout le nécessaire a été fait. J'ai revu mon ami qui m'a dit qu'il n'y avait plus qu'à attendre. J'ai signalé, au reçu de votre première lettre, la nationalité française de vos deux enfants et au reçu de la seconde, le départ possible du camp du Loiret. J'attends, et cette attente, je vous prie de le croire, mais à titre d'ami, très pénible. C'est vous assurer que je me mets à votre place. Espérons que j'aurai prophétiquement à vous apprendre une nouvelle précise et heureuse. Je suis avec vous de tout cœur.
27 juillet 1942, Michel Epstein à André Sabatier. J'ai reçu ce matin votre lettre de samedi. Merci mille fois pour tous vos efforts. Je sais que ce que vous faites et que vous ferez tout pour m'aider. J'ai de la patience et du courage, pourvu que ma femme ait la force physique nécessaire pour supporter ce coup. Ce qui est très dur, c'est qu'elle doit être horriblement inquiète au sujet des enfants et de moi-même, et que je n'ai aucun moyen de communiquer avec elle puisque je ne sais même pas où elle se trouve. Vous trouverez ci-joint une lettre que je tiens absolument à faire parvenir à l'ambassadeur d'Allemagne, et ceci d'urgence. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui puisse l'approcher personnellement et la lui remettre, le comte de Chambrun peut-être, qui je crois veut bien s'intéresser à ma femme, ce serait parfait. Mais si vous ne voyez personne susceptible de le faire rapidement, voulez-vous avoir l'obligeance de la faire déposer à l'ambassade ou simplement de la mettre à la poste? Merci d'avance. Bien entendu, si cette lettre gêne les démarches déjà faites, déchirez-la. Sinon, je tiens beaucoup à ce qu'elle arrive à destination. Je crains pour moi-même une mesure similaire. Pour parer à des soucis matériels, pourriez-vous faire envoyer à Mademoiselle Dumont une avance sur ses mensualités de 43? J'ai peur pour les enfants.
9 août 1942. Michel Epstein à André Sabatier. Je viens d'apprendre d'une source très sérieuse que les femmes, les hommes aussi d'ailleurs et les enfants, internés dans le camp de Pithiviers ont été conduites à la frontière d'Allemagne et de là dirigées vers l'Est, Pologne ou Russie probablement. Ceci se serait passé il y a environ 3 semaines. Jusqu'à maintenant, je croyais ma femme dans un camp quelconque, en France, sous la garde de soldats français. Savoir qu'elle se trouve dans un pays sauvage, dans des conditions probablement atroces, sans argent ni vivre, et parmi des gens dont elle ne connaît même pas la langue, c'est intolérable. Il ne s'agit plus maintenant d'essayer de la faire sortir plus ou moins rapidement d'un camp, mais de lui sauver la vie. Vous devez avoir reçu mon télégramme d'hier. Je vous ai signalé un livre de ma femme, « Les mouches d'automne », paru d'abord chez Cras, en édition de luxe, et ensuite chez Grasset. Ce livre est nettement anti-bolchévique et je suis désolée de ne pas y avoir pensé plus tôt. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour insister, cette nouvelle preuve en main auprès des autorités allemandes. Je sais, cher ami, que vous faites tout ce que vous pouvez pour nous sauver, mais je vous supplie, trouvez, imaginez encore autre chose. Consultez de nouveau Morand, Chambrun, votre ami, et plus particulièrement le docteur Bazy, président de la Croix-Rouge, 12 rue Newton. Le chef de son secrétariat particulier est Madame Rousseau, même adresse, en leur signalant ce nouveau motif que sont les mouches d'automne. Il est tout de même inconcevable que nous, qui avons tout perdu à cause des bolcheviques, nous soyons condamnés à mort par ceux qui les combattent. Enfin, cher ami, c'est un dernier appel que je lance. Je sais que je suis impardonnable d'abuser ainsi de vous et des amis qui nous restent encore, mais Je le répète, c'est une question de vie ou de mort, non seulement pour ma femme, mais aussi pour nos enfants, sans parler de moi-même. C'est sérieux. Seul ici, avec les gosses, presque en prison, puisqu'il m'est interdit de bouger, je n'ai même pas la consolation d'agir. Je ne peux plus ni dormir, ni manger. Que cela serve d'excuse à cette lettre incohérente.
29 septembre 1942, Michel Epstein et André Sabatier. Je vous avais promis de vous accaparer de demandes et je tiens ma promesse. Voici de quoi il s'agit. Ma carte d'identité d'étranger, valable jusqu'à novembre prochain, doit être renouvelée. Cela dépend du préfet de Saône-et-Loire, Mâcon, et je dois lui adresser une demande de renouvellement ces jours-ci. Je voudrais que cette demande ne nous occasionne pas de nouveaux ennuis. Je vous demande donc une intervention auprès du préfet de Mâcon. Je suis parfaitement en règle à tous les points de vue, mais les circonstances peu propices aux gens de ma catégorie me font craindre des embêtements de chancellerie, etc. Puis-je compter sur vous ? Je ne ferai aucune démarche avant d'avoir votre réponse, mais cela presse.
5 octobre 1942. André Sabatier à Michel Epstein. Je viens de recevoir votre lettre du 29. Je l'ai lue, je l'ai fait lire. Aucun doute, ma réponse est très nette. Ne bougez pas. Toute démarche me paraît extrêmement imprudente. J'attends la visite du chanoine d'Imney et serai heureux de m'entretenir avec lui. Le 12 octobre 1942, André Sabatier à Michel Epstein. J'ai reçu ce matin votre mot du 8 ainsi que le double de la lettre que vous avez envoyée à Dijon. Je vous écris pour dire ceci. Notre ami était en règle parfaite et reconnaissait que cela n'a rien empêché. En ce qui concerne les enfants, étant donné qu'ils sont français, et pour employer votre propre expression, je n'ai pas l'impression qu'un changement de climat soit indispensable, mais ce n'est qu'une expression. Il me semble que sur ce point, la Croix-Rouge serait à même de vous renseigner avec plus de précision et plus de sûreté.
8 janvier 1945, réponse de Robert S. Ménard. La carte du 13 octobre 1944 au nom de Madame Nemirovski nous est bien parvenue, mais hélas, nous n'avons pas pu la faire suivre à sa destinataire. En effet, Madame Nemirovski a été arrêtée le 13 juillet 1942 à Issy où elle vivait depuis 1940 et emmenée au camp de concentration de Pithiviers, puis déportée le même mois. Son mari a été arrêté quelques semaines plus tard et déporté également. Toutes les démarches faites en leur faveur ont été vaines et nul n'a jamais reçu de leurs nouvelles. Les deux petites ont pu heureusement être sauvées grâce au dévouement d'une amie avec qui elles vivent en province. Croyez que nous sommes profondément désolés de vous transmettre ces nouvelles.
5 avril 1945. Marc Aldanov, New York, à Robert S. Ménard. Par Madame Raïssa Adler, nous venons d'apprendre la nouvelle tragique concernant Irène Nemirovski. Madame Adler nous a également fait savoir que ses deux filles ont été sauvées par une ancienne garde malade de leur grand-père. Cette garde malade, Mademoiselle Dumont, est, dit-on, une personne digne de toute confiance. Mais malheureusement, elle est dénuée de toute ressource et ne peut par conséquent se charger de leur éducation. Les amis et les admirateurs de Madame Nemirovski, qui sont à New York, se sont réunis pour envisager ce qu'on pourrait faire pour les enfants. Mais ils ne sont ni très nombreux ni riches. Quant à notre comité, il y a aujourd'hui une centaine d'hommes de lettres et de savants. Nous n'avons pas pu faire assez. C'est pourquoi nous nous adressons à vous, cher monsieur, pour demander si Madame Nemirovski n'aurait pas un crédit auprès de ses éditeurs français représentant ses droits d'auteur et si en cas affirmatif, il ne vous serait pas possible, à vous et à vos collègues, de mettre une partie de ses honoraires à la disposition de ses deux enfants. Nous vous enverrions leur adresse.
Mai 1945, réponse de Robert S. Ménard à Marc Aldanov. Madame Nemirovski a en effet, hélas, été arrêtée en juillet 1942, conduite au camp de Pithiviers puis déportée. Son mari, quelques semaines après, a eu le même sort. Nous n'avons jamais reçu de leurs nouvelles et sommes profondément angoissés à leur sujet. Je sais que Mademoiselle Dumont, qui a sauvé les deux petites filles, les élèves parfaitement. Pour le lui permettre, d'ailleurs, je dois vous dire que j'ai versé à Mademoiselle Dumont, depuis l'arrestation de Irène Nemirovski, des sommes importantes puisqu'elles s'élèvent à 151 000 francs et qu'actuellement encore, je lui assure une mensualité de 3 000 francs.
Le 1er juin 1945, André Sabatier à Julie Dumont. Je pense beaucoup à vous et à vos enfants depuis que les déportés et les prisonniers commencent à revenir en France. Je suppose que pour l'instant vous n'avez rien pu savoir, car vous m'auriez certainement tenu au courant. De mon côté, je n'ai pu enregistrer la moindre indication. J'ai demandé à Madame Gigi Bernard, qui connaissait Madame Nemirovski et qui se trouve actuellement à la Croix-Rouge, de faire les démarches nécessaires afin que l'on puisse savoir quelque chose. Bien entendu, si j'apprenais quoi que ce soit, vous seriez la première informée. Il y a une question que je voulais vous poser. Que sont devenus les papiers qui se trouvaient ici au moment de l'arrestation de Madame Nemirovski? J'ai entendu dire qu'il y avait une grande nouvelle achevée. En auriez-vous le texte? Si oui, pourriez-vous me le communiquer et nous pourrions peut-être le publier dans notre revue, La Nef.
16 juillet 1945, André Sabatier, à l'abbé Englebert. Je vous écris pour un objet tout à fait inattendu. Voici ce dont il s'agit. Vous connaissez de nom et de réputation certainement Irène Nemirovski, une des plus fortes romancières féminines que la France ait eue au cours des années qui ont précédé la guerre. Israélite et russe, Irène Nemirovski a été déportée en 1942, ainsi que son mari, vers un camp de Pologne, sans doute. Il ne nous a jamais été possible de savoir quoi que ce soit. À l'heure actuelle encore, le silence est total, et nous avons perdu, hélas, tout espoir de la retrouver vivante. Irène Nemirovski avait laissé en France, à la garde d'une amie, deux petites filles, Denise et Elisabeth Epstein. Je viens de voir la personne qui s'est occupée d'elle. Celle-ci m'a raconté qu'elle avait fait accepter ses deux petites filles comme pensionnaires chez les dames de Sion. L'accord était fait, et voici qu'au dernier moment, la mère supérieure s'est dérobée, sous le prétexte qu'il n'y avait plus de place. D'où une déception et un gros ennui pour la brave femme qui s'occupe de ses deux petites filles. Vous est-il possible de savoir ce qu'il en est exactement? Et si vous avez quelque influence auprès de ces dames, pourriez-vous insister pour qu'à la rentrée d'octobre, tout au moins, Denise et Elisabeth soient admises ici chez les dames de Sion? Nous nous intéressons beaucoup à ces deux petites. Vous le comprendrez en tout état de cause, même si vous ne pouviez rien. Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à cette requête.
7 octobre 1945. Robert Esménard, note pour Moselle Le Fur. Vendredi après-midi, je suis allée chez Madame Simone Sinclair, qui fait partie d'un comité ayant pour but de venir en aide aux enfants d'Irène Nemirovski. Certaines personnes et certains groupements vont verser une somme mensuelle entre les mains du notaire qui a été désigné pour les accueillir jusqu'au moment où, en principe, les deux enfants auront passé leur bac. Une fois que l'aînée Denise l'aura obtenue, je suppose que cette question sera revue. En dehors de cela, des dons seront reçus de façon à constituer un capital aux filles d'Irène Nemirovski dont elles pourront disposer à leur majorité. Il y a déjà une certaine somme dans laquelle est compris un versement de la Banque des Pays du Nord où était employé M. Epstein, quelque chose comme 18 000 francs, correspondant aux 3 000 francs de mensualité avec une certaine rétroactivité. De larges communiqués seront faits dans la presse pour l'aider à constituer.
24 décembre 1945, W. Tideman à Irène Nemirovski. Je suis journaliste d'un journal de Leyde, Hollande, à qui j'ai fait une offre de traduire pour eux un roman ou un conte français comme feuilleton. Ils viennent de me répondre qu'ils sont d'accord sur le principe de publier ce que je leur conseille ou envoie. Je leur ai fait savoir qu'il y aurait des droits à payer, qui seront sans doute beaucoup plus élevés pour un roman déjà publié ici, les éditeurs exigeant leur part, que pour une nouvelle non éditée, originale, pour laquelle ils n'auraient à traiter qu'avec l'auteur. Et j'ai pensé à vous, bien que je ne connaisse de vous que vos romans. 29 décembre 1945, réponse Albin Michel à W. Tideman. j'ai pris connaissance de la lettre adressée à mes bureaux au nom d'Irène Nemirovski, ne pouvant, hélas, la transmettre à sa destinataire. Madame Irène Nemirovski a en effet été arrêtée en juillet 42, puis déportée en Pologne, croit-on. Depuis la date de son arrestation, nul n'a jamais reçu de ses nouvelles.
Réservé aux Juifs dans notre pays durant cette période sinistre, a arrêté la carrière d'Irène Nemirovski. Son œuvre, qui était quelque peu tombée dans l'oubli, doit sa renaissance à sa fille Denise. En effet, celle-ci détenait un cahier de sa mère, précieusement conservé, mais qu'elle n'avait osé ouvrir. Avec sa sœur, devenue directrice littéraire sous le nom d'Elisabeth Gilles, elles décidèrent de confier la dernière œuvre de leur mère à l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. On découvrit non pas de simples notes, mais une véritable fresque de l'exode subi par l'auteur comme par des milliers d'autres personnes. Le talent de cet écrivain toucha les membres du jury Renaudot si fortement qu'ils lui attribuèrent le prix en 2004. Hommage mérité à celle qui met en scène dans son roman « Suite française » ces deux personnages par ces mots. Mais enfin, qu'est-ce qui te console alors ? La certitude de ma liberté intérieure, dit-il, après avoir bien réfléchi, ce bien précieux, inaltérable, et qu'il ne dépend que de moi de perdre ou de conserver. Que les passions poussées à leur paroxysme, comme elles le sont maintenant, finissent par s'éteindre. Que ce qui a eu un commencement aura une fin. En un mot, que les catastrophes passent et qu'il faut tâcher de ne pas passer avant elles. Voilà tout. Donc, d'abord vivre. Primum vivere. Au jour le jour. Durer. Attendre. Espérer. Ces mots, nous pouvons les lire à la page 269 de l'édition Folio. Irène Nemirovski vit encore parmi nous par ses romans, auxquels ses propres filles ont redonné vie et juste notoriété. Un inédit, Chaleur de sang, vient de paraître aux éditions de Noël. La musique que vous avez entendue est de Chostakovitch. C'est l'une des mélodies sur un des poèmes Le chant d'Ophélie, interprété par Natalia Gerasinova, accompagnée par le trio de Moscou.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez